Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, RMC Story. On va tout de suite démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est bien sûr cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui partout en France. Et Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui hausse le ton. Pour lui, il faut tout simplement que le gouvernement cède.
On a affaire, me semble-t-il, à un président de la République, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça, qui veut, par égo, surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme. Quel que soit l'avis de l'opinion publique, quel que soit l'avis des citoyens. Et c'est dangereux de raisonner comme ça. C'est dangereux de raisonner comme ça. Surtout qu'après son élection, la dernière, il avait dit « j'ai changé, je vais écouter, les syndicats, c'est important ». Vous voyez le résultat aujourd'hui.
Mais si je vous comprends bien, Philippe Martinez, vous nous dites ce matin, si... cette réforme passe, Marine Le Pen sera élue en 2027 ?
En tout cas, le président de la République joue avec le feu.
Voilà, le président de la République joue avec le feu les propos de Philippe Martinez. Mais est-ce que le gouvernement peut céder face à la rue, Rémi ?
Officiellement, en tout cas, il n'en est absolument pas question. Les manifestations ont beau se succéder, les syndicats appelés à amplifier le mouvement, c'est important parfois de résister à la pression de l'opinion publique. Voilà ce que déclare Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Officiellement, donc, le gouvernement ne cède pas et n'a pas l'intention de le faire, mais tout va désormais se jouer à l'Assemblée nationale où les débats viennent de débuter. Et là, des concessions, il y en a. Concession accordée aux Républicains, dont le vote sera déterminant pour dégager une majorité. Ce week-end, Elisabeth Borne s'est ainsi dit à l'écoute et prête à faire encore évoluer le projet de réforme. Après le report de l'âge légal de départ à la retraite, ramené de 65 à 64 ans, on l'a déjà oublié, mais c'est vrai qu'au départ c'était 65.
Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà oublié.
Et finalement, on est passé à 64. L'extension de la pension minimum à 1 200 € aux retraités actuels, ça c'était aussi une demande faite par les Républicains. Eh bien, le gouvernement vient d'annoncer que les actifs ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans seront bel et bien concernés par le dispositif de carrière longue. Dans les rangs de la majorité, pendant ce temps-là, certains commencent désormais à se demander si au final la réforme permettra de bien de générer 13,5 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030 pour combler le déficit. Certains, dans les rangs de la majorité, se demandent si créer tout ce brouhaha social, ça suffit. Enfin, c'est nécessaire, au final, avec une réforme qui se détricote au fur et à mesure des jours qui passent.
Oui, il y a de moins en moins de réformes, finalement. Alors, manifester sert-il encore à quelque chose, Fred Hermel ?
Dans l'absolu, oui. Mais dans ce cas précis, non.
C'est ça la question. Pourquoi
voilà.
Non ? Il y a 1 500 000 personnes dans la rue, ça
ouais,
ne sert à rien.
Mais ça bouscule la vie des gens. Moi, j'ai fait un petit sondage dans les commerçants de mon quartier.
C'est intéressant.
C'est la vie des gens. Moi, je ne vois pas trop la différence entre un jour normal et un jour de grève, à part les transports.
Et c'est quand même important.
Oui, c'est important, oui. Mais la majorité des gens ne font pas grève, malheureusement, pour le mouvement.
Et vous, ce qui vous impacterait, c'est que votre boucher charcutier fasse grève, quoi.
J'ai parlé avec mon boucher charcutier, j'ai pas la petite pizzeria à côté avec plein de gens. En fait, ça ne change quasiment rien à la fréquentation des lieux. Simplement, c'est plus compliqué pour les employés de venir. Donc en fait, c'est une grève des transports, en gros.
C'est ça.
C'est une grève. J'exagère un petit peu. Mais dans un peu. On peut pas dire. Franchement, quand on a connu, j'étais jeune.
95.
J'avais 25 ans. C'était autre chose. Aujourd'hui.
Fred, faut pas oublier l'école. Il y a plein de parents qui nous écoutent, qui ont leurs enfants en télétravail.
Oui, il y a de moins en moins d'enseignants. Oui,
On verra. La dernière journée, c'était 26%. Hein.
Oui.
26% de grévistes. Ça veut dire que c'est un quart.
Ouais, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui ont les enfants.
Mais ce que je dis, entre faire chier les gens et entre bloquer un pays, là, on est loin du blocage du pays. Voilà. Et pour le gouvernement, et comme on voit très bien que personne n'a les moyens. Quand personne n'a les moyens de faire une semaine de grève, par exemple 10 jours, 15 jours de bloquer le pays, ça peut continuer comme ça. Le gouvernement, ça ne sert plus à rien et les gens se fatiguent pour rien, là.
Alors j'ai bien compris, Benjamin Muller, que vous aviez des problèmes de garde d'enfant.
Ça sentait le ressenti peut-être.
Ah oui, mais vous en avez fait 4, donc à un moment.
3. C'est déjà bien.
Ah bah c'est déjà pas mal.
C'est la grève pour le 4e.
C'est déjà beaucoup. Benjamin Muller, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Fred Hermel. Aujourd'hui, vous sentez pas, vous, un essoufflement dans les manifestations quand même?
En tout cas, moi je pense que ça a encore beaucoup de sens parce que ça permet la discussion, ça permet de continuer de discuter sur la valeur travail, sur la place des seniors dans les entreprises. Surtout des choses dont finalement on parle jamais. À part pendant les réformes. C'est vrai, il y a un vrai débat public, je trouve plutôt de fond. D'un côté, il y a le débat syndicat contre politique, c'est une chose. Et d'un autre, il y a un débat que moi, je trouve plutôt intéressant aujourd'hui sur la place du travail, la place de la valeur travail dans notre pays. Et je trouve que c'est un peu une chance. On a un peu la possibilité de réfléchir à ça. Dans les petites avancées que les manifestants peuvent encore avoir, à mon avis, les 64 ans, enfin, je pense que c'est mort. Enfin,
ça c'est mort. Oui, ça m'a l'air bien compris.
En revanche, il y a un mot dont on parle pas, c'est la pénibilité. On en parle en fait très peu, les carrières longues, les carrières des femmes, le minimum, ok, mais la pénibilité. J'ai regardé en fait dans le détail, on n'en parle pas alors que moi je trouve qu'il devrait mettre le paquet là-dessus. En 2014, la loi Touraine, François Hollande, il lance le compte personnel de prévention de la pénibilité. Mmh. En clair, il y avait des avancées assez importantes, il y avait 10 facteurs de risque qui entraient dans la pénibilité pour prendre en charge beaucoup plus de métiers. C'est-à-dire les métiers physiques, là où l'environnement était, là où vous travaillez avec des substances chimiques, des choses comme ça.
J'irais Fred Hermel et Daniel Rillot, pendant ça apporte des
là, vous pouvez partir à 57 ans.
C'est ce que je pense.
Macron, en 2017, pendant la campagne, dit « je n'aime pas le mot pénibilité », il le dit quand même, et ça faisait partie d'un peu, ça aurait pu nous mettre une puce à l'oreille. Il n'aime pas le mot pénibilité, ce qui est comme intéressant comme phrase, et donc dès qu'il est élu, il dit ce compte personnel de prévention de la pénibilité, on va le changer, on l'appelle plus comme ça, il le remplace par le compte professionnel de prévention, ça a l'air d'être du blabla, mais en fait c'est intéressant, et surtout il supprime 4 facteurs, c'est-à-dire les charges lourdes, c'est-à-dire les postures pénibles, etc. Concrètement, les déménageurs, métiers pénibles, déménageurs parmi les métiers pénibles, vous imaginez le truc à 64 ans, elle a encore porté un piano.
Non, j'imagine pas.
Les ouvriers dans le bâtiment, les coiffeurs, tout ça sorti du compte pénibilité. Là, aujourd'hui, donc, ça râle avec la réforme des retraites. Ils disent, OK, vous inquiétez pas, on va relancer la compte pénibilité. On n'entre pas dans le détail, mais en fait, dans le compte pénibilité, la Cour des comptes avait condamné tout ce qui a été fait, etc. En fait, vous entrez pas avec ces professions à nouveau dans la pénibilité. D'accord. Ils débloquent juste des fonds. Pardon, parce que
on est sur ce débat-là, parce qu'on est sur les manifestations, mais bon.
Oui, mais c'est là où je veux dire, là, on peut gagner, les manifestants peuvent encore gagner, c'est concrètement là-dessus. Typiquement, le déménageur,
Mais ce sera individualisé, profession, c'est toi qui verras un médecin du travail et qui te dira si tu peux.
Ça, c'est ce qu'ils ont dit. À 61 ans, tu vois un médecin du travail qui te dit si tu peux arrêter
ou pas. Mais là, les gens, ils manifestent pas là-dessus. Ils manifestent pas au cas par cas. Là, les gens, ils manifestent pour un truc global.
Ah, moi, j'entends souvent des gens dans les manifs quand même parler de leur cas. Et ils ont raison.
C'est normal.
Et ils ont raison.
Mais tu manifestes aussi pour tout le monde, en fait. Pour, ce qui va devenir, ce que vont devenir tes enfants plus tard, eux, combien de temps ils vont bosser, etc., etc. C'est pas que du perso. Là, la pénibilité, chacun va aller voir effectivement son médecin du travail, va dire, ah ben moi, jamais. Tout le monde considère qu'il y a un métier pénible, de toutes les manières.
Je pense pas que tout le monde considère ça. Moi, je pense que.
Bah, beaucoup de gens.
Ouais, il y a effectivement des métiers pénibles. Et en fait, si vous regardez dans les faits, il y en a très peu qui sont considérés comme pénibles.
Oui, mais par exemple, la pénibilité intellectuelle n'est jamais prise en compte. Vous avez beaucoup aujourd'hui de gens qui font des travails de bureau qui sont totalement inintéressants et qui font des burn-out. Ça aussi, c'est pénible et ça rentre jamais en ligne de compte. Thierry Moreau, là, on voit que les lycées et les facs commencent, mollement, à s'y mettre. Est-ce que ça peut changer quelque chose?
Moi, je pense que, à contrario de ce qu'a dit Fred, elle a du sens, cette mobilisation. Si elle continue à être puissante, sans débordement, si ça augmente de semaine en semaine, alors évidemment, celle d'aujourd'hui, il va y avoir moins de monde, parce qu'on est en semaine et que ça oblige à prendre une journée de grève, et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. En revanche, le marqueur, ça sera samedi. Si samedi, effectivement, comme vous le dites très justement, Estelle, il y a des étudiants, il y a des retraités, des gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de travail par une journée de grève, qui se mobilise, et s'il y a une vraie amplification d'un mouvement populaire, ça fera réfléchir, et en tout cas, ça sera regardé à la loupe. Pourquoi ? Ça sera regardé à la loupe par le gouvernement, évidemment, mais ça sera aussi regardé à la loupe par les députés, qui sont, eux, en ce moment, au centre du jeu. Parce que c'est leur électorat, c'est ceux qui vont les réélire ou pas, qui seront éventuellement dans la rue. Et ça, je pense que ça peut permettre de bouger sur certains critères. Alors après, évidemment, 64, ça bougera pas, mais je pense que cette histoire de pénibilité, par exemple, elle peut baisser la première consultation auprès d'un médecin du travail. Elle pourrait ne pas être à 61 ans, mais plus tôt. Ça fait partie des choses qui ont été évoquées. Et puis surtout, moi, ce qui me sidère, c'est cette immense échec de communication depuis le début. Ce matin, chez Apolline, il y avait Olivier Dussopt qui parlait qui était confronté aux auditeurs. Et il y avait une auditrice qui dit, ouais, j'ai 59 ans, eh ben, je vais partir avec 2 ans de plus. Et quand ils ont détaillé son cas, en fait, non, elle perd 2 ou 3 trimestres. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'elle a un métier pénible. Mais il y a eu un manque d'information, je dirais, technique. Il y a eu une information politique. Ils ont été faire le job sur les plateaux. Mais l'information technique, elle n'a pas été là. Et ça, c'est très grave.
Si tu permets, ça prend une seconde. quelque chose qu'on ne comprend pas. En fait, les gens descendent dans la rue, parce qu'on parlait d'adaptation, de discussion. Les gens descendent dans la rue pour le retrait du projet. Pour le retrait pur et simple. Et là, ça ne va pas.
Non. Pour une autre réforme.
Pour une autre réforme. Non, Beaucoup de gens sont pour la réforme.
Ils sont pour une réforme, mais pas celle-là. Ils veulent pas la retraite de 64 ans. Alors que celle-là, c'est
mais
sûr.
Mais parce que le gouvernement s'est braqué sur cet âge pivot.
Aménager sur les femmes, par exemple.
Exactement.
Nous, on perd énormément. On est les plus grandes pénalisées par cette réforme. Donc il y a beaucoup de femmes dans la rue. Alors que d'habitude, il y a moins de femmes dans la rue. Là, il y a beaucoup de femmes dans la rue parce que.
Ah, ça, c'est factuel. Les femmes sont pénalisées.
Parce que c'est un problème.
Mais c'est clair. Mais ces manifestations, même s'il y a beaucoup de monde, ne changent rien. Globalement, le pays n'est pas bloqué, je suis désolé.
Ah non, le pays n'est pas bloqué, mais ça peut changer quelque chose pour le gouvernement. Oui, Rémi.
Un indicateur factuel, quand même, depuis plusieurs semaines maintenant, au fil des mobilisations, les syndicats appellent à amplifier la mobilisation. Dans le primaire, là, on a eu les chiffres de taux de grévistes. On est à 14% de grévistes aujourd'hui. C'était 42% le 19 janvier. Et dans le collège et lycée, on est à peu près à 14% d'enseignants grévistes. C'était 35% lors de la première journée de mobilisation, le 19 janvier dernier.
Ça s'essouffle, mais le grand test, ce sera certainement samedi, puisque beaucoup de personnes vont pouvoir aller manifester sans perdre de journée de travail. C'est le cas notamment de Brigitte, qui nous appelle de Pagey, dans l'Isère. Bonjour Brigitte.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Et merci Brigitte. D'être avec nous, Brigitte. Et vous, justement, vous allez manifester pour la première fois de votre vie samedi, hein, Brigitte.
Ah, je suis allée aux deux manifestations précédentes et j'y retourne samedi parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas y aller, je travaille.
Et Brigitte, pourquoi vous y allez en fait ? Est-ce que c'est pour votre cas personnel ou est-ce que c'est parce que, tout simplement, vous pensez aussi aux autres et vous ne voulez pas de cette réforme ?
Ben écoutez, moi je vais commencer par penser à moi, donc c'est pour mon cas, que je peux vous présenter. Donc j'ai commencé à travailler à 17 ans et demi.
C'est
j'ai
tout.
Eu deux enfants, hein, et j'aurai 43 ans de versement à 60 ans. Donc Madame Borne dit que ceux qui ont travaillé avant 18 ans pourront partir à 60 ans. Mais je crois qu'il faut avoir cotisé 4 trimestres avant 18 ans. Donc, ça ne sera pas mon cas.
Avant 20 ans.
En fait, Brigitte, il faudrait que... Le premier truc, c'est de regarder quand même sur assurance-retraite.fr pour voir votre situation. Parce que comme le disait Thierry Moreau tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont devoir travailler deux ans de plus. Et ce n'est pas forcément le cas, même si, évidemment, quand on a commencé à 17 ans et demi comme vous, j'imagine que même avoir un trimestre, deux trimestres de plus, franchement, on n'a pas envie. Brigitte, vous pensez vraiment que le fait de manifester, ça peut faire plier le gouvernement ?
Ben, j'espère. Parce que donc moi je suis allée, je suis allée sur le site et je devrais travailler un an de plus. Alors on parle de
43 ans, madame, c'est ça,
et puis après on parle de 44. Enfin on ne sait plus où on en est.
C'est
et
vrai.
Puis maintenant on dit que ceux qui ont commencé à 20 ou 21 ans travailleront que 43. Alors dans mon cas, je vais avoir 43 ans de versement. À 60 ans, je vais avoir donc j'ai une carrière complète. J'ai deux enfants, donc si je rajoute deux ans par enfant, ça me fait 4 ans. Donc 43 ans de travail plus 4 ans par enfant, ça va me faire 47 ans de validé. Et je vais devoir encore travailler un an. Ben je suis un petit peu en colère par rapport à ça.
Eh ben écoutez, non mais je comprends bien sûr Brigitte et effectivement le gouvernement a mal fait certainement son travail de communication parce que effectivement c'est flou et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas où ils en sont. Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous. Gabriel nous appelle de Reims. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Et Gabriel, bonjour. Vous aussi vous serez dans la rue samedi.
Oui, exactement. Et ça sera la première pour les
retraites. D'accord.
Je travaillais et je suis intérimaire, donc en tant qu'intérimaire, on peut pas prendre des jours comme ça.
Et bien sûr.
Justement, j'ai pas entendu parler une seule fois des intérimaires, parce que nous, on travaille par intermittence, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans, je travaillais l'été pendant mes vacances, donc je travaillais pas les quatre trimestres. Non. Mais pourtant, j'aurai des trous pendant mes périodes de travail. Donc forcément, à 64 ans, j'aurai encore des années à faire, en fait. Et du coup, bah, moi, je sais que la retraite, j'y compte même plus, en fait. Donc, j'irai parce que, bah, parce que faut se mobiliser, parce que c'est pas normal qu'on prenne l'argent, bah, aux gens qui travaillent, alors que on donne de l'argent aux entreprises, aux grandes entreprises, bah, à tour de bras, sans contrôle, quoi. Et au final, bah, faut que nous, on serre la ceinture, alors que, bah, alors qu'ils donnent des, ils donnent des 5 millions et, etc. dans des entreprises, et derrière, il n'y a aucun contrôle, et voilà, quoi.
Et Gabriel, vous avez quel âge? Vous avez une voix très jeune.
J'ai 33 ans.
Ah oui, donc vous êtes jeune et vous êtes quand même mobilisé. Vous dites déjà, je ne vais pas avoir de retraite.
Ah, moi, je, bah non, moi, j'y compte.
Vous n'êtes pas très optimiste.
Façon, parce que même si cette retraite-là, enfin, cette réforme-là ne se fait pas, dans 10 ans, ils vont en faire
une autre
réforme. Et puis dans 20 ans, il y en aura une autre. Et voilà. Ouais. Et moi, je sais très bien que bah, là, j'ai eu deux ans où j'ai travaillé par intermittence. Mm. Bah, ces deux ans-là, il faudra bien les récupérer à un moment ou à un autre. Et je suis encore en intérim. Donc, ce n'est pas dit que dans deux ans, pendant les deux prochaines années, j'ai encore des trous où j'aurai pas de trou, quoi. Donc ça continuera à s'accumuler, et donc à 70 ans je serai encore en train de travailler, si je suis encore là.
Et vous inquiétez pour votre sort, et c'est légitime, Gabriel, et vous serez dans la rue samedi, comme beaucoup, beaucoup de Français. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels, beaucoup de réactions sur l'application RMC de gens qui vont aller manifester samedi, qui ne manifestent pas là aujourd'hui, parce que ça leur prend une journée de travail, mais qui manifesteront samedi. Jean-François Amadieu est notre invité sur ce débat, il est sociologue spécialiste des mouvements sociaux et professeur à Paris 1. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans Estelle Midi. Jean-François, ça sert vraiment à quelque chose là, de manifester aujourd'hui et peut-être encore plus samedi?
Alors samedi, oui, parce que je crois que le chiffre est très certainement qu'on aura samedi, sera exceptionnel. C'est une journée qui va vraiment s'y prêter. Aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est vrai que prendre une journée pour aller manifester est moins utile parce qu'il y a une manifestation dans 15 jours. Voilà, donc c'est vrai que c'est moins efficace. D'autant plus que ce qu'on sait, ce que tout le monde le sait, c'est que quand vous faites comme ça des manifestations une fois par semaine, vous pouvez le faire une dizaine de fois et ça ne suffira pas à obtenir un résultat non plus.
Mais là, aujourd'hui, par exemple, la manifestation d'aujourd'hui, finalement, elle compte pas.
Regardez ce qui va se passer en fin de journée. On aura un chiffre qui sera en diminution très certainement par rapport à la dernière fois. Peut-être que ce sera 700, 800 000, je ne sais pas. Donc, un chiffre plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de la journée? Pas de taux de grévistes exceptionnels, plutôt moins de monde. C'est tout à fait naturel. C'est pas une démobilisation, mais c'est logique. Donc, au fond, on va enjamber cette journée et puis se projeter vers samedi. Donc,
c'est une erreur finalement d'avoir fait deux jours comme ça aussi proche, parce qu'en fait, on comprend pas bien pourquoi manifester le mardi et le samedi. Il fallait laisser le samedi, en fait.
Voilà, je pense que c'est pas très. C'est un peu. À mon sens, c'est un peu une erreur parce que vous remarquerez que ça va coûter des journées de travail, évidemment, pour des gens qui ont dû se mettre en grève ou débrayer. Donc, ça, c'est quand même un problème. Donc, je pense que ça aurait pu être évité, effectivement.
Bah merci beaucoup Jean-François Amadieu d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Thierry Moreau, c'est vrai, quand on écoute Jean-François, on se dit bah oui, pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux journées de manifestation le mardi et le samedi?
C'est le fruit du compromis dans l'intersyndicale entre la CGT qui veut continuer les mouvements sociaux en semaine avec arrêt de travail, voire blocage, et la CFDT qui, elle, privilégier plutôt les manifestations du samedi, populaires, nombreuses, et qui permet à ceux qui ne peuvent pas justement faire grève. Donc, en fait, c'est le jeu d'un compromis, mais je suis tout à fait d'accord avec votre invité. C'est à mon avis une erreur stratégique.
Et on sent justement qu'il y a ces compromis, mais ça peut nuire en tout cas à la force syndicale, à l'efficacité syndicale, parce que faut se rappeler que la CGT, elle pousse à la grève, à la mobilisation, voire à la grève générale reconductible. La CFDT n'en veut pas. Samedi, on avait dit au départ à la SNCF qu'il y aura appel à la grève pour samedi. Le problème, c'est qu'il y a des départs en vacances. Finalement, il y a rétropédalage hier. Les syndicats de la SNCF n'appellent plus à la grève samedi. Enfin, on commence
à
sentir. Oui, mais on commence à sentir qu'il y a des voix discordantes au sein de l'Union syndicale.
Pour samedi, c'est assez malin, je trouve, de ne pas vouloir bloquer les gens qui partent en vacances pour rester populaire.
Mais ça ne va pas dans le sens de ce que veut la CGT. Il ne faut pas oublier que la CGT, elle veut un blocage.
Là, c'est l'intersyndicat qui...
La grave erreur, rapidement, c'est qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, c'est hyper facile. Jean-François Amadieu l'a expliqué, on le voit, nous. Les chiffres sont en baisse. Tu parlais des profs, tu parlais de 45, après 25.
15%.
Il y a beaucoup moins de difficultés dans les transports.
Mais bien sûr. Donc c'est très facile pour le gouvernement de communiquer en disant oui, la concertation à l'Assemblée, il y a un discours très facile. Les discussions à l'Assemblée, il faut que les gens commencent à réfléchir, etc. Donc c'est tout bénéf pour le gouvernement qui ne va rien changer.
On continue à parler de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Dans un instant, on sera en ligne avec Christophe, il est cheminot et il va nous expliquer son cas. Et puis on viendra sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il était dans le cortège au départ de Marseille ce matin. Il a dit cette semaine sera décisive. D'accord, pas d'accord avec lui. Et puis on aura plein de messages à lire avec Rémi Barré sur l'appli RMC, rubrique direct au studio. Continuez à nous appeler, continuez à nous écrire. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. Avec vous également au 32-16. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous écrire pour parler de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On vous écoutera dans un instant. Mais avant cela, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui était à Gare de Lyon ce matin avant la grande manif parisienne de cet après-midi. Et pour lui, écoutez, la semaine sera décisive.
Cette semaine, nous entrons dans le moment de la grande tension. C'est cette semaine que beaucoup de choses vont se jouer parce que vous allez avoir une éruption massive dans les rues du pays, de la population. Il ne va pas dire qu'il va arrêter en route. Il essaye de tenir bon, mais sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire, dans une démocratie... À un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable, et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. Les gens n'étaient pas spécialement disposés à vouloir se mettre en mouvement comme ils le font. C'est lui qui l'a fait pour des raisons dont maintenant tout le monde est bien conscient qu'elles sont totalement artificielles.
Alors Jean-Luc Mélenchon, cette semaine sera décisive. D'accord, pas d'accord avec lui, Benjamin Muller.
Moi, ce que je trouve artificiel, là, c'est la déclaration de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui.
J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'il dit cette semaine va être une semaine décisive.
Oui.
Sur tous
oui.
les sujets. Et je trouve que
parfois,
c'est
il
peu...
dit ce jour sera décisif.
Ouais, là, ce jour, voire 7 heures, les 3 minutes qui arrivent vont être décisives. Et je trouve que c'est un peu ce dont peut pêcher un peu le mouvement. C'est que les porte-parole qui sont les syndicalistes, qui sont bon aussi dans leur position syndicale, certains remettent leur titre en jeu dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc ils font eux aussi de la politique. Et Jean-Luc Mélenchon, moi, je le trouve... malgré tout son talent oratoire, tout son talent politique, tout ce qu'on veut, je le trouve un peu usé. Et je trouve qu'il gagnerait un petit peu à renouveler un petit peu les porte-paroles de l'opposition qui viendrait dire globalement ce qu'il dit. Moi, je trouve que c'est moins audible que ça ne l'était il y a 5 ans quand il vient de dire
c'est la semaine derrière, il y a une semaine tout juste, il appelait à l'insurrection citoyenne.
Non, mais ça n'a pas trop marché. Donc, il est obligé de changer de discours. Nous sommes avec Daniel qui nous appelle de la Buisse en Isère. Deuxième auditeur de l'Isère, décidément. Ça va, Daniel?
Bonjour, bonjour Assel.
Et bonjour, merci bonjour. D'être avec nous, Daniel, vous allez manifester samedi?
Ben justement, je posais la question, je disais si c'est des manifestations qui se répètent sur le même style, ça peut pas gagner. En fait, ce qu'il faudrait, profiter de samedi, une montée en masse de toute la France à Paris, avec des trains gratuits, bus gratuits pour qu'il y ait une masse de gens. Le million de personnes ou les 2 millions de personnes, s'ils sont pas répartis dans toutes les villes, mais toutes centrées à Paris, à l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés, alors là, à mon avis, le résultat sera rapide. On discutera pas pendant des jours, des semaines et des mois. Tout dépend de ce qu'on veut, parce que si on veut vraiment gagner, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, effectivement, c'est exercer, quand on dit le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, majoritairement, le peuple est contre cette réforme, et on n'a pas à se laisser imposer, sous prétexte d'une élection un peu bidon, la volonté
du gouvernement.
La démocratie, quand on fait tout un deuxième tour en disant contre Le Pen, contre Le Pen, contre Le Pen,
mais
contre
oui, mais, Macron. Mais oui, mais contre, Daniel, alors après, ça vous plaît ou pas, mais il se trouve que Emmanuel Macron, qu'il ait été élu pour de bonnes raisons ou pas, il a été élu. Oui, et
il l'avait annoncé pour le coup.
On se doit de respecter
le coup, il l'avait annoncé. Ça, c'est pas un coup d'un.
En tout cas, la majorité du peuple est contre cette réforme.
Ça, c'est vrai.
Si on veut la faire retirer, il faut se donner les moyens d'y aller en masse et de monter en masse. Pour affronter, pas pour chanter, pas pour chantonner, mais dire on est content, on est nombreux, mais pour gagner.
Alors, je vais rebondir sur ce que dit Daniel, Fred Hermel. C'est vrai que là, au départ, on disait c'est bien, et c'est un peu comme les gilets jaunes, il y a des manifs dans toutes les villes de province, c'est très sympa, il y a 20 000 par-ci, 30 000 par-là, etc. Mais est-ce que Daniel a raison? Est-ce que finalement, pour avoir un effet de masse et quelque chose qui se voit vraiment, il faut que tout le monde monte sur Paris, entre guillemets?
Ah, mais Daniel, j'ai tout à fait d'accord, il a tout à fait raison. Parce que c'est vrai que quand on donne un chiffre en disant 1 million ça dans toute la France, mais c'est il y a pas la photo et c'est l'image qui impacte. C'est-à-dire de voir Paris totalement pris par les gens là, et en dehors de, du circuit, etc. Une manifestation qui met 2 heures à démarrer, tellement il y a de gens à faire démarrer. Là oui, ça a de l'impact. Il a tout à fait raison. Mais ça veut dire quoi? Des trains gratuits, oui, des bus gratuits. Mais qui va payer? Enfin, je veux bien, hein. Faudrait que les syndicats, non. Puis les vacances vont commencer, etc.
Oui, dis, et puis le risque de refaire les gilets jaunes avec les débordements. C'est un peu ce qui se passait,
ça aussi. C'est ça le problème. C'est là où je suis pas d'accord avec Fred, c'est que la montée sur Paris, ça a une côté, ça a un côté, la province qui monte, pour manifester devant le Parlement pour faire pression. Et on sait que la dernière fois que c'est arrivé, on a été à deux doigts de la catastrophe. Oui, sauf que la dernière fois que c'est arrivé, excuse-moi, ça a été une catastrophe, la montée sur les Champs-Élysées.
Oui, mais parce qu'il y avait déjà eu des violences avec les gilets jaunes. Là, il n'y en a pas. Là, pour l'instant, c'est hyper bon enfant.
Oui, j'ai du mal à considérer qu'une manifestation de masse à 1 ou 2 millions de personnes à Paris se fasse sans débordement. Là, encore une fois, les préfectures, les sous-préfectures, les petites villes moyennes, etc., qui manifestent, je pense que le chiffre global sera vraiment regardé à la loupe parce que je pense que ça peut peser plus qu'une manifestation d'ampleur
à Paris. L'image est moins parlante.
L'image est moins parlante, mais le résultat, je pense, sera plus efficace.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est un gouvernement qui gouverne par l'image. C'est-à-dire que les images sont très fortes pour ce gouvernement. Et c'est vrai que si tout d'un coup, tu vois une énorme masse à Paris... Il gouverne
par l'image. Mélenchon, il gouverne par l'image. Quand il appelle à la insurrection tous les jours et qu'à chaque fois, il se plante et qu'il dit que c'est le grand soir tous les soirs et que c'est jamais le grand soir, il y a un moment, on se fatigue, quoi.
En août, c'était un mois d'août, Jean-Luc Mélenchon appelait le peuple à déferler à Paris et à lutter contre le coup d'État social. En août 2017.
Mais il avait dit aussi, il avait comparé Macron à Louis XV en disant, on l'enterra de nuit sous des lancers de pierre.
Proposer d'enterrer le président. Appeler les gens à manifester en août, c'est quand même,
Fin août 2017, il disait que la rentrée sociale de 2017, de septembre,
il a plus que ses mots pour exister. Le problème, c'est qu'il n'a plus que ses mots pour exister.
Justement, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a vu, Mélenchon à Marseille, je crois que les Marseillais.
C'était à Paris, en fait.
C'est à Paris, là?
Ouais,
d'accord.
Gare de Lyon.
D'accord, pardon.
Donc, à mon avis, votre raisonnement va pas dans le bon sens, là.
Non, mais la dernière fois, il était à Marseille.
Oui, voilà, bon,
Vraiment, le 31 janvier dernier, il est à Marseille. Et je crois qu'on l'a plus vu à Marseille maintenant, qu'il n'est plus rien.
Mais ça, c'est sûr.
Que quand il était député,
c'est
une image qui est très forte.
Quand vous parlez, pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est Jean-Luc Mélenchon, son seul titre, c'est ancien candidat LFI à la présidence de la République.
Bah oui,
il n'est plus
dire
que ça. Il n'a plus de mandat électif. Donc, sa voix porte beaucoup moins qu'auparavant.
Alors, nous sommes avec Christophe, qui nous appelle de Mézières sous Lavardin, dans la Sarthe. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
Christophe, est-ce que vous vous mobilisez samedi contre la réforme des retraites?
Alors, samedi, non, parce que je vais travailler.
Ah, très bien.
Je suis cheminot, mais cheminot, ça travaille aussi le samedi. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, oui.
Et pourquoi vous allez manifester, Christophe?
Alors, pas forcément pour moi, mais surtout pour ma femme qui est artisan coiffeuse.
D'accord.
Et qui, elle, aura ses 43 années, voire plus, à 62 ans, et qui se voit mal aller jusqu'à 64 ans.
Oui, mais ça, je comprends. Et puis, en plus, Benjamin Muller le disait,
exactement, les hommes de la pénibilité.
Retirer des métiers pénibles.
Voilà, c'est plus un métier pénible, coiffeur.
Alors que vous travaillez debout et courbé quand même toute la journée. Puis parfois, vous subissez des conversations qui n'ont aucun intérêt toute la journée. Et ça
c'est pénible.
Évidemment pénible. On parlait, il y a un instant, avec un autre auditeur, Christophe, du fait de mettre les trains et les bus gratuits pour que tout le monde puisse aller à Paris samedi. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, c'est ça ma question.
Non, légalement, je crois que c'est pas possible.
Non,
on ne peut pas des trains gratuitement dans un train.
Le salarié qui ferait ça, le contrôleur qui ferait ça, ça exposerait des sanctions, une faute grave et.
Ouais. Ok, donc
c'est emploi dans tous les cas. Quoi.
Donc c'est pas forcément la solution.
Pour revenir à la retraite, en tant que cheminot, moi-même, je partirai qu'à 67 ans à la retraite parce que j'étais embauché qu'à 24 ans.
À taux plein.
Voilà, à taux plein, je partirai qu'à. Donc parce que pour ça, j'en ai marre qu'on entende parler de dire les cheminots ils partent tôt à la retraite, alors que c'est faux. J'ai encore un collègue qui est parti à 62 ans la semaine dernière.
Non, 62 ça va.
Oui, 62 ça va. Non, mais je veux dire, lui, il a été embauché. On lui avait dit, tu partiras à 55, avec 37 années et demie de cotisation. Au final, il en a fait un peu plus. Et moi, c'est pareil. Quand j'étais embauché il y a 23 ans, c'était 37 et demi. Bon, je savais très bien qu'il allait y avoir des réformes. J'étais pas contre. Fallait bosser plus. Mais voilà, faut
arrêter. Il y en a marre.
On va pas aller trop loin non plus, quoi.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous sur ce débat. Franck, lui, nous appelle de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Il est informaticien. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Alors, la question, en fait, c'est est-ce que la mobilisation a encore du sens? Et pour vous, elle aura du sens si on durcit le mouvement, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut taper au portefeuille pour moi.
Mais c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu comme on fait les gilets jaunes, c'est-à-dire bloquer une certaine partie de l'économie en France. Ça a trois niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement une baisse de la récupération de la TVA qui va être très rapide.
Mais qui va faire ça ?
Ben, à partir du moment où on bloque, par exemple, les centres commerciaux, où on bloque un peu l'économie, éventuellement les carburants, etc.
Ah d'accord.
On va forcément baisser les recettes de TVA. Ça, c'est un effet immédiat.
Vous voulez mettre l'économie par terre, en fait, Franck,
concrètement. Non, carrément pas. Non, c'est le problème, c'est pas le peuple qui met l'économie par terre. C'est les politiques. Par le fait qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne réagissent pas au mouvement qu'il y a dans la rue, je suis désolé, mais le seul moyen qu'il y a à un moment donné, c'est de montrer aux politiques que ce qu'ils font est contre-productif au niveau du pays et donc génère au niveau financier des problèmes.
Pour moi, c'est vous bloquez, Franck, aussi, vous bloquez des petites entreprises, des gens qui aussi vont avoir une retraite de misère et qui n'y sont pour rien, en fait. Vous pénalisez aussi d'autres Français.
Mais je suis bien d'accord. Et le problème, c'est que c'est pas moi qui les bloque. C'est les politiques, de par leurs décisions, qui bloquent tout ça. Ben oui. C'est ça le problème. Ben oui. Mais quelque part, les politiques sont responsables des comptes publics. Mais quelque part.
Ben justement, avec cette réforme des retraites, l'idée est quand même de sauver les retraites, Franck. Alors on n'est pas forcément d'accord.
Personne n'y croit, là. Excusez-moi, Benjamin.
Moi, j'ai quand même un tout petit peu d'espoir que les retraites existent encore dans quelques décennies.
Si la réforme, elle est totalement. Déjà, au départ, elle n'était pas. Mais si en plus, elle est détricotée de tous les côtés, ça ne sauvera plus rien.
Alors moi, j'aimerais bien savoir tous les gens qui disent oui, on ne pense pas à notre avenir, on veut sauver la France, etc. D'accord, très bien. Donc on bosse tous jusqu'à 57 ans et on fait quoi ?
Quelque chose, s'il vous plaît. J'ai travaillé pendant 8 ans et je m'occupais des programmes au niveau du calcul du paiement des retraites et du versement des retraites.
D'accord.
Au niveau de la retraite des commerçants, d'accord, qui s'appelait l'organique à l'époque et qui maintenant s'appelle qui s'est appelé le RSI et maintenant qui est intégré dans le régime général des retraites.
Okay.
D'accord. Donc je peux vous dire que les politiques mentent lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent, parce que à l'époque, je peux vous garantir que les trésors de guerre qu'ont les caisses de retraite, notamment au niveau des placements immobiliers, ce sont des centaines de millions d'euros,
voire
des
milliards d'euros.
Oui, mais c'est de l'argent qui de toute façon va être reversé. C'est pas de l'argent que les caisses de retraite gardent pour elles, c'est de l'argent. Ils ont de l'argent pour l'instant, mais il se trouve que il y a un vieillissement de la population. Franck, il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite et de moins en moins de jeunes.
Il va y avoir un creux. Va y avoir un creux et qu'après, alors par rapport, pour revenir à ce que disait tout à l'heure l'auditeur, normalement, à terme, ce sera plutôt une meilleure stabilisation des comptes. Mais pour l'instant, on va avoir affaire à un creux qu'il faut combler d'une manière ou d'une autre.
Il faut craindre ou espérer un durcissement du mouvement pour vous, Benjamin Morel ? Muller, pardon.
Mais Morel aussi, il faut craindre. En fait, moi, ce que je crains, moi, je vais vous dire, si ça se durcit, s'il y a de plus en plus de monde, si le mouvement reste populaire, si c'est une belle fête samedi, des belles images, il fait beau et tout, très bien. Moi, j'ai peur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de reproduire les gilets jaunes. Moi, habitant Paris, j'ai des souvenirs de traverser Paris, notamment les Champs-Élysées, au lendemain, où la ville était quand même à feu et à sang. Moi, si je crains un truc aujourd'hui, c'est de revivre ça. En revanche,
pour l'instant, pas d'incident, il y a quasiment pas d'interpellation.
Et il faut le souligner.
Y a aussi beaucoup de dialogue entre les organisations syndicales et le préfet de police de Paris.
Qui a changé,
Qui a changé. Très encadrés, les services d'ordre font leur travail, etc. Donc il y a quand même du progrès.
Et juste un truc sur Emmanuel Macron, vous avez vu avec qui il déjeune aujourd'hui à midi ? Nicolas Sarkozy.
Oui.
Je me dis, le mec, le jour où il manifeste...
Oui, c'est bien.
Ouais, il se dit, là, franchement, c'est quand même un petit pied de nez, pour le dire comme ça, à tous les gens qui manifestent.
Alors, on a fait une consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. La mobilisation a-t-elle encore un sens, Rémi ?
Mais ça rejoint, on sait que 72% des Français, dans la plupart des sondages, dans plusieurs sondages en tout cas, soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites. Et là, on est à 73%. De ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux qui justifient, en tout cas estiment que la mobilisation a encore du sens.
On est sur une cohérence.
Oui.